Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Tout de suite après, on aura Onek Shabbat, qui est une vision de musique juive et qui sera en a cappella, car on est encore toujours dans la période de Tisha B'Av. C'est tout de suite après cette émission. Et là, nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir, Rav Lemel.
Bonsoir.
Alors, oui, ce Shabbat a une double particularité, celui d'être le Shabbat d'Evarim et celui d'être la veille de Tisha B'Av. Et il se trouve, comme toujours, que les parachiotes de notre Torah sont liés avec les événements du jour, du moment. Et là, la Haftara de Devarim, c'est celle qu'on appelle Chazon, où en fait on voit Hachem faire des reproches au peuple juif. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il nous reproche, parce que ça va nous permettre de comprendre sur quoi on va devoir travailler. Mais il faut aussi savoir que cette Haftara tombe toujours avant Tisha B'Av. Donc expliquez-nous quel est son enjeu, quel est l'enjeu de cette Haftara.
Exact. Alors on est Shabbat Dvarim, en effet le Shabbat Dvarim dont la Haftara et Chazon tombe systématiquement avant Tisha B'Av. Alors tout d'abord, dans la paracha, il y a déjà une petite allusion, puisque vous avez un moment inversé qui va commencer par les mêmes termes que l'on va retrouver malheureusement dans la Megillat Echa, que l'on dira le jour de Tisha B'Av. Echa et Salvadi, Torachem ou Masachem Berifrem, lorsque Moshe dit au peuple, comment pourrais-je supporter seul votre dimension fatigante, votre poids et vos disputes. Alors, on sait très bien que, samedi soir et dimanche, on va lire, enfin en tout cas samedi soir c'est sûr, dimanche ça dépend des traditions, c'est à la fin des keynotes, généralement on va lire donc sa Megillat Echa, dans lequel on dit autre chose, on dit Echa, comment Jérusalem s'est retrouvée seule et abandonnée, avec donc malheureusement tous ces versets qui évoquent la destruction de Jérusalem. Ça c'est déjà une petite allusion qu'il y a dans la paracha de Dvarim, Echa, c'est même terme. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en effet, quand Moshe dit au peuple d'Israël, comment pourrais-je porter seul vos dimensions fatigantes, votre poids et vos disputes, il nous renvoie bien malheureusement à ce qui est la problématique essentielle du clan d'Israël, c'est-à-dire les dissensions, les tensions, les révoltes, les remises en cause, alors qu'on est un peuple juif qui à ce moment-là est dans le désert et voit au quotidien tous les miracles. Alors, à la fin de cette paracha, on va lire donc Chazon. Chazon Yeshayahu ben Amotz, il s'agit donc de cette vision d'Isaïe. On est ici dans le premier chapitre d'Isaïe et on parle donc de cette vision que Isaïe va voir sur la Judée et sur Jérusalem. Et donc, il commence, et c'est vrai que les premiers versets sont très intéressants parce que il appelle les cieux et la terre être à l'écoute de sa parole. Et Dieu parle et dit la chose suivante, « Banim gidalti veromamti vehem pash ubi » J'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, ils ont fauté vis-à-vis de moi. Et dans le verset d'après, il y a donc cette idée qui est très, très bouleversante. Il y a « Dashor konehu vachamor evus balav » Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne, la mangeoire de celui à qui il appartient, Israël loyada, Israël n'a pas su, ami lohed bonan, mon peuple n'a pas pris le temps d'observer, de réfléchir. Dans ce verset-là, au fond, Isaïe est en train de dire, regardez, l'animal a une gratitude. Le bœuf sait parfaitement à qui il appartient, qui lui fournit son fourrage et ce dont il a besoin. L'âne, connaît sa mangeoire et sait que si celle-ci est remplie, c'est parce qu'il y a un propriétaire. Alors que le peuple d'Israël, qui doit tout au Créateur, comme toutes les nations, mais Gidalti Voromamti, je les ai fait grandir, je les ai fait élever, eh bien, eux, justement, ne veulent pas me connaître. Mon peuple ne veut pas prendre le temps d'observer et de réfléchir. Et on est ici, au fond, donc, dans un des problèmes les plus importants, qui est celui de cette habitude d'un quotidien sur lequel on ne réfléchit plus. On considère que tout est normal. Tout est normal, rien ne... Tout nous est dû. Nous n'avons pas à exprimer notre reconnaissance et encore moins à nous interroger sur ce que j'appellerais la singularité de notre histoire. Parce que ici, évidemment, Isaïe parle, Ishaïaou parle, au moment où le peuple d'Israël est sur sa terre, au moment où il y a le Beth Amikdash, il y a le Temple, il y a eu donc toutes ces choses extraordinaires, la sortie d'Égypte, l'arrivée sur la terre, tous les miracles. Et évidemment, eh bien non, ça y est, c'est du passé. On n'y croit plus même, on n'y pense pas. Et quelque part, qu'est-ce que ça crée comme relation particulière avec le Créateur ne nous intéresse plus. Si j'avais envie de ramener les choses à notre niveau, à nous, dans nos sociétés, eh bien, je parlerais peut-être aussi de ce que l'on appelle la singularité du destin du peuple d'Israël. Regardons notre histoire, elle est singulière qu'on le veuille ou pas. Malgré toutes les tentatives de la décrypter, de lui donner une explication de texte rationnel, elle n'en a pas. Il y a en effet une histoire particulière au peuple juif. Et c'est vrai que tellement d'historiens, tellement de ceux qui s'affublent de ce titre de penseur juif, ont envie d'expliquer le pourquoi du comment, et de dire « non mais vous comprenez, c'est parce que ceci, c'est parce que cela », et faire de grandes théories qui au fond ne sont que de grandes théories pour ne pas voir derrière ce destin la main du Créateur de l'univers et donc sa présence avec tout ce que ça représente. Et ça, c'est la première chose qu'Isaïe dit. Arrêtez, peuple juif, de ne plus vouloir voir la présence d'Hachem dans votre histoire. Arrêtez de ne plus vouloir vous laisser bouleverser par cette conscience que vous avez un destin singulier et que le Créateur de l'univers est présent dans l'histoire. Et à partir de cela, eh bien, il commence à décrire tout ce que le peuple d'Israël va faire. Goy chote am kevedavon zerameriim bani mashritim, azvu et Hachem, des versets très lourds dans lesquels il dit azvu et Hachem, ils ont abandonné le Créateur, ils ont véritablement mis de côté celui-ci. Et donc, évidemment, après, on retrouve la destruction, on retrouve tous ces événements qui sont là pour nous faire réagir, pour nous amener à réfléchir. Et il dit quelque chose au milieu de ce texte terrible. Il dit « Lama lirov zifrechem ». Dieu dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toutes vos offrandes au temple ?»« Savati olom elim v'chelim merim » J'en suis rassasié, je n'en peux plus. Lorsque vous voulez venir me voir, eh bien, même vos visites au temple ne veulent plus rien dire. Que Toret Toeva, vos encens sont abominables pour moi. Vos Chotchechem ou Moadechem Sana Nafshi, vos Rosh Chodesh, vos fêtes, je les ai en haine. Hayu Alayla Torah, elles sont pour moi fatigantes, pesantes. Dieu dit que même lorsque vous allez m'implorer, c'est terminé, je ne suis plus capable de vous écouter. Pourquoi ? Parce que vos mains sont remplies de sang. Et là, il leur demande de s'écarter du mal, d'irshu mishpat, de chercher la justice. Faites en telle sorte de défendre la veuve et l'orphelin. Et à ce moment-là, Dieu leur dit, je vous en prie, soyez à cette écoute, parce que c'est ce qui va tout changer. C'est ce qui va, en effet, permettre la transformation. Dieu, en vérité, est en train de dire que les fêtes du peuple d'Israël, ces rituels, ne l'intéressent plus. D'abord parce que leur cœur est loin, ce ne sont que des rituels. Et puis parce qu'il y a surtout beaucoup d'injustices. On ne tient pas compte des pauvres gens, des gens dans la difficulté, des gens qui vont mal. J'ai envie de dire, on ne réfléchit pas à ce que représente la cherté du coût de la vie, ça peut être ça aussi, même si certains vont me dire « mais de quoi vous vous mêlez ?» Mais c'est peut-être ça aussi. Les produits cachers coûtent de plus en plus cher. Personnes ont difficile. Et quelque part, nous sommes, eh bien, parfois un petit peu insensibles à tout cela. Vous me direz que ce n'est peut-être pas au Rav d'exprimer ce propos, mais néanmoins, il y a lieu de réfléchir. Parce que il y a dans notre société des personnes qui sont faibles, qui sont démunies, qui sont en difficulté. Alors bien sûr, en même temps, il y a tellement de personnes merveilleuses qui s'en occupent, qui s'impliquent. Mais ça doit être un état d'esprit global à tous les niveaux, de se sentir concerné par les personnes qui sont dans la difficulté, réinstaller la notion d'être juste, pas la justice, d'être juste dans notre manière de penser, de voir, de réfléchir. Faire en telle sorte que les mitzvot, les commandements, ne soient plus juste des rituels dénués de sens, mais soient aussi ce qui nous amène à repenser la relation qu'on doit avoir au monde et aux choses. De ne pas mettre Dieu de côté et juste le rencontrer de temps à autre lorsque l'on va à la synagogue. Et puis, une fois qu'on l'a rencontré, eh bien, on repart dans notre réalité quotidienne sans s'interroger sur la place qu'il doit y occuper. Et évidemment, Isaïe, comme tous les prophètes, eh bien, conclut sur une note d'espoir. Il dit en effet, lorsque vous allez commencer à réavoir cet état d'esprit, à ce moment-là, je réinterviendrai dans votre histoire. À ce moment-là, les versets sont très beaux et cette haftara se conclut par ces versets, ce verset Tzion, Bebishpat, Tipadé, Veshavé, Abitzdaka, que Tzion, Sion, Eret Israël, donc, sera racheté par la justice et ceux qui reviendront, Bitzdaka, par la Tzedaka, la charité. Alors, comme je vous le disais, c'est tout simplement réinstaller l'idée d'être juste dans nos rapports à l'autre et d'être capable de faire preuve de tzedaka, c'est-à-dire de s'interroger, au fond, chacune et chacun d'entre nous, sur la responsabilité que l'on a vis-à-vis des autres, de leur apporter, de leur donner une présence, un sourire, de l'argent, une écoute, une manière de leur montrer que nous sommes tous ensemble unis comme peuple. Et que la difficulté de l'autre, c'est notre difficulté, et que nous avons envie, en effet, de lui donner les moyens de la dépasser. Voilà un petit peu quelques éléments sur lesquels on pourrait réfléchir. Vous dites que, eh bien, après Shabbat, ça sera Tisha B'Av. C'est vrai, nous allons, entre guillemets, fêter Tisha B'Av, parce que Tisha B'Av est une fête, parce qu'un jour, la reconstruction aura lieu. Mais c'est Shabbat, le 9 Av. Et pourtant, nos maîtres nous disent que le 9 Av, quand c'est Shabbat, eh bien, nous faisons un Shabbat comme d'habitude. Pourquoi ? Parce que justement, nous savons très bien que si nous intégrons ce que Shabbat est aussi en train de nous dire, qu'il y a un créateur de l'univers, que c'est lui qui dirige le monde, et avec tout ce que cela implique, alors évidemment, nous arriverons à la Geoula, à la délivrance que l'on attend, que l'on espère très très rapidement, Bezrat Hashem.
Il y a vraiment quelque chose de génial quoi, dans tous ces textes. La justice, on n'a pas dit soit mieux, bien, moral, juste. C'est vraiment, vraiment, c'est normal qu'on soit amoureux de ces textes, ils sont tellement beaux. Ravili Lemel, je vous remercie. Shabbat Shalom, Tzom Kal, bon dimanche, et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai Biton. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom Omevorach.
Plein de bonnes choses, et comme on vient le dire avec Rav Lemel, il y a ce, évidemment aujourd'hui, on se souhaite Shabbat Shalom, mais on a déjà un petit pincement au cœur en pensant à Tisha B'Av.
Absolument.
Et qui est dimanche. Et vous voulez intervenir là-dessus. Vous dites la clé de l'exil, d'ailleurs ça a été dit comme ça, ça a été écrit comme ça. C'est la paracha des explorateurs, des miraglés. Vous voulez pas rentrer, vous allez rester en exil. Mais donc, pour vous, c'est pas seulement conjoncturel, c'est pas seulement à ce moment-là,
Vous dites que c'est la clé de tous les exils, et donc y compris du nôtre. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, le premier exil, c'est Adam qui est obligé de quitter le paradis. C'est pas, c'est le premier exil, malheureusement pour nous, c'est pas après les Méraglim. Et d'ailleurs, on en a vu d'autres, et des beaucoup plus graves, je vais pas parler à votre place. Pourquoi, d'après vous, c'est la racine de l'exil, ce moment-là?
Alors, quand on regarde la Gemara, le traité Sanhedrin, page 104b, la Gemara nous dit la chose suivante. « Ve'oto alayla shebachou, cette nuit-là où ils ont pleuré, ou ma'asou beretz chemda, ils ont dédaigné cette terre désirée, cette terre, cette nuit-là, était l'El Tisha B'Av. » Et Akadosh Baruch Hu leur dit, « Atem bachitem bechiyash el-chinam, vous avez pleuré un pleur vain, ani ekva lachem, priya l'edorot, je vais fixer ce jour-là comme étant un jour dans lequel vous pleurerez tout au long des générations. » Et donc, nous dit la Gemara, en commentant les versets de la paracha des explorateurs, où les explorateurs vont faire un rapport fallacieux, mensonger sur l'État d'Israël, provoquer le désarroi dans le camp des Bnei Israël, et donc, finalement, le fait que les Bnei Israël vont errer dans le désert pendant 40 ans, la Gemara va dire, ben voilà, c'est là que ça se passe. Ils pleurent pour rien, parce qu'à ce moment-là, on leur offre de rentrer en État d'Israël. Et ils refusent. Donc nous, on doit comprendre. On doit comprendre en fait ce qui se passe au 9 Av. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est le 9 Av pour nous? C'est une tentative de tikkun, de réparation. Ce jeûne a été institué pour que nous puissions réparer ce qui a été défait au moment où l'exil est né. Et qu'est-ce qui a été défait? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert au moment où les Bnei Israël donc, se plaignent? Eh bien, il se passe la chose suivante. Il faut pour ça interroger les psukim. À plusieurs reprises, on voit que les Bnei Israël, lorsqu'ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu, ont dit Venatena lanu rosh, venashuva le Mitzrayim. On va se donner quelqu'un, un rosh, un dirigeant, et reviendra en Eretz Mitzrayim. Pourquoi les Bnei Israël sont sortis d'Égypte? Quel était le but des Bnei Israël? Quel était le but d'Hachem? Eh bien, figurez-vous que ce but n'était pas le même. Le but des Bnei Israël, c'était de fuir les malheurs. Fuir les malheurs. On était en Égypte, on était persécutés, on était frappés, on était réduits à l'état de bêtes de somme et d'esclaves. Et il leur était donné la possibilité de fuir les tsarots, de fuir les malheurs, de fuir les douleurs de l'esclavage. Le but d'Hachem n'était pas celui-là. Le but d'Hachem était de permettre aux Bnei Israël d'accéder à, finalement, à leur véritable identité sur le plan spirituel. Sortir d'Égypte, devenir des êtres libres de l'esclavage idéologique égyptien, être capable de recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash. Ce but, les Bnei Israël vont le découvrir au fur et à mesure qu'ils avancent dans les étapes jusqu'au Har Sinaï. Ils vont le découvrir jusqu'à ce moment-là. Mais à ce moment-là va se produire l'épisode du veau d'or, qui est un épisode où finalement ils vont renouer d'une certaine manière avec la Vodazar, avec l'idolâtrie. Mais ce qui se passe avec les Méraglim, avec les explorateurs, est également, on va dire, un complément de ce qui se passe au pied du mont Sinaï avec le Vaudor. C'est-à-dire que finalement, les Bnei Israël, à un moment donné, refusent cette idée que la sortie d'Égypte avait un but qui est un but spirituel. Faire du peuple juif le peuple qui porte la Torah et qui construit une civilisation sur une terre, qui est la terre d'Israël, qui est la civilisation du Beth Amikdash. C'est la civilisation du lien avec Hachem. Et finalement, les Bnei Israël vont, d'une certaine manière, refuser ce rendez-vous, qui est que finalement, on rentre en Eretz Israël pour achever ce qui s'est fait au Mont Sinaï, avec le Beth Amikdash. C'est-à-dire, finalement, exprimer de manière pleine et entière notre identité sur le plan spirituel. Et là, il y a quelque chose qui nous interroge, nous, dans notre génération. On prie tous pour le Mashiach, on veut le Mashiach, d'accord ? Ici en Israël, c'est devenu presque une aspiration quotidienne, parce que les gens vivent dans un univers d'incertitude politique, ils disent qu'il n'y a que le Mashiach qui peut nous délivrer de ces gens-là. Ça, c'est pour la trivialité populaire, mais cette idée que finalement, on vit une période à la fois faste, mais en même temps, on voit toutes sortes de malheurs, toutes sortes de difficultés, donc on se dit que c'est le Mashiach qui va nous délivrer. Pourquoi est-ce qu'on attend le Mashiach? On attend le Mashiach, pour une grande partie d'entre nous, pour se délivrer de nos soucis. Le Mashiach ne va pas nous délivrer de nos soucis. Le Mashiach va faire ce qu'on appelle un tikkun olam. La raison pour laquelle on attend le Mashiach et la raison pour laquelle on pleure le 9 Av, c'est pour réparer la faute des Méraglim. les Meraglim ont provoqué une fuite de la présence divine du camp d'Israël pendant un certain temps. Et donc, ils ont finalement provoqué dans les générations futures finalement un éloignement de la Shrina, de la présence divine du peuple juif. Le symbole de cette présence, c'est le temple. Mais tout au long des âges, la présence divine accompagne Am Israël, mais il y a une certaine fuite. Et en fait, ce qui nous est demandé, et là, c'est ce qui nous est demandé quand on est assis par terre en train de pleurer, c'est de pleurer pour le malheur que ressent la Shrina, la présence divine, d'être en exil. C'est-à-dire de ne pas résider parmi nous, au milieu du Beit HaMikdash, du temple, et en même temps, par une présence visible d'Akadosh Baruch Hu, qui est une présence qui sera beaucoup plus visible après l'arrivée du Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on pleure à Tisha B'Av ? On pleure à Tisha B'Av parce que la présence divine n'est pas parmi nous, sous la forme du Beit HaMikdash. Cette présence nous manque. On pleure en quelque sorte pour s'identifier au Tsahar, à la peine de la Shrina, de la présence divine. Or, c'est pas ce qu'on ressent. Très souvent, c'est pas ce qu'on ressent. On se dit, le Mashiach va nous livrer de nos ennuis. On n'aura pas de problème avec les Palestiniens, on n'aura pas de problème avec les Iraniens, on n'aura pas les Américains sur le dos, on n'aura pas l'UNESCO ou l'ONU pour nous condamner tous les quatre matins, on n'aura pas un président français qui viendra ici pour nous dire la sempiternelle sortie sur les Palestiniens, les Israéliens, etc. Bref, on sera délivré de Chiboud Malchuyot. On sera délivré de cet asservissement idéologique aux nations du monde. Voilà, et donc on sera plus tranquille et plus indépendant. Mais ce n'est pas ça l'objet. Cette période-là, nous dit le Rambam, c'est une période intermédiaire. Le but, c'est l'étaken et olam malchut shaddai, c'est-à-dire affirmer la présence d'Hachem dans le monde en tant que maître absolu de tous les processus naturels, politiques, historiques et autres. C'est ça le but. Et donc, en vérité, ce pleur des Bnei Israël, là, ce qui s'est fait pendant la nuit du 9 av, c'était que finalement, les Bnei Israël regrettaient finalement de se retrouver dans le désert, parce que dans le désert, c'était dur. On leur demandait un certain nombre de choses qui étaient dures. Il fallait grandir. Et donc, en vérité, n'avaient envie qu'une seule chose, c'est de fuir leur malheur. Et cette maturation spirituelle s'est faite tout au long des 40 ans du désert. Il a fallu 40 ans pour qu'ils acquièrent cette maturité. Il y a deux hommes qui n'étaient pas dans cette idéologie, c'était Caleb ben Yefouné et Yoshua, qui sont rentrés en Eretz Israël, parce qu'ils avaient compris le but. Aretz Hazot Tova Meod Meod. Ils ont compris qu'il y avait un rendez-vous ici. On devait arriver là-bas pour achever ce qui avait été fait au Arsinaï. Alors ça qu'il faut comprendre, en réalité, c'est que la génération du désert a loupé le rendez-vous de la Torah et d'Eretz Israël. Et notre génération, elle a Eretz Israël. Mais est-ce qu'elle a la Torah ? C'est ça le tikkun, c'est ça la réparation. On a loupé un premier rendez-vous dans l'histoire, un rendez-vous historique, spirituel, entre Eretz Israël et la Torah. Et là, maintenant, on a Eretz Israël. On peut venir en Eretz Israël. On peut habiter, des millions de Juifs habitant en Eretz Israël, et plusieurs millions vont venir en Eretz Israël dans les années qui viennent. D'accord, mais pourquoi ? Pour y mettre la Shrina, pour y mettre la présence divine, pour y attendre le Mashiach, les Taken Malchut Shaddai, pour attendre le Mashiach pour que se révèle dans toute sa majesté la présence divine telle qu'on pouvait la voir au temple, ou alors pour se dorer la pilule sur la plage de Tel Aviv. Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on se situe ? Et ça, c'est la question qui est posée par le 9 av, et ça, c'est la question qui est posée par la raison pour laquelle on pleure le 9 av. Qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut ? Voilà, à tous et à tous, Shabbat Shalom, qu'on n'ait pas besoin de faire Tisha B'Av cette année. On peut encore le dire, on a le droit de le dire, même si Léo et la vie ne s'est pas révélé aujourd'hui. On se rappelle cette fameuse question qui a été posée au Rav de Brisk, qui a dit Eliyahu Hanavi, il doit venir trois jours avant le Mashiach. Donc, si Eliyahu Hanavi n'est pas venu aujourd'hui, pendant trois jours, je n'ai pas besoin de croire à venir le Mashiach. Il avait dit c'est Eliyahu Hanavi qui répondra à cette question. Voilà, donc on est dans l'incertitude. On espère qu'on n'aura pas besoin de faire Tisha B'Av et on espère cette délivrance, on espère la présence de la Shrida, de la présence divine. À toutes et à tous, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Rav Mordechai Bitton. Et en effet, samedi soir, on fait la fête. Hein. Voilà. Shabbat Shalom.
L'accueil du Mashiach.
Tzomkal. Et Tzomkal. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, ou Mevorach, Bernard.
On continue notre émission spéciale Tisha B'Av en essayant aussi de comprendre comment on peut mettre ensemble le jour de joie qui nous attend, et Tisha B'Av. Et vous dites, la Gemara a pointé du doigt, a souligné cinq raisons pour lesquelles
on pleure à Tisha B'Av. Alors, on va écouter et on va apprendre.
C'est ça, tout à fait. Oui, c'est une Gemara bien connue qui évoque les 5 raisons pour lesquelles on est triste lors du 17 Tammuz, hein, qui représente le début du processus des 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim, les 3 semaines étriquées, pour le traduire littéralement. Et les 5 raisons donc pour lesquelles on s'endeuille également le jour de Tisha B'Av, hein, qui est, comme on le sait tous, la journée la plus triste de l'année. Et surtout, j'invite nos auditeurs à ne pas créer le moindre lien entre le jeûne de Tisha B'Av et celui de Yom Kippour. Yom Kippour est appelé chez nous une journée de grande, grande fête. Alors, comme on aime bien manger, qu'on a du mal à jeûner, on les associe dans notre tête. Yom Kippour est un jour de fête extraordinaire. C'est le jour où on a reçu les 2e tables de la loi. C'est le jour où on nous dit qu'on peut tout recommencer. Tisha B'Av n'a rien à voir avec cela. Tisha B'Av est réellement la journée la plus sombre de l'année, la plus opaque et celle durant laquelle, en fait, se sont figés les plus grands malheurs d'Israël. Alors, la Gemara énumère effectivement les cinq raisons pour lesquelles nous jeûnons à Tisha B'Av. Alors, la première raison est antérieure au temple, hein, parce que je sais que dans l'esprit de tous, Tisha B'Av est lié à la destruction du grand temple de Jérusalem, bien sûr, mais la première des raisons est antérieure au temple. La première des raisons, c'est Tisha B'Av, historiquement, le jour où les Meraglim, c'est-à-dire les explorateurs, sont revenus d'Israël avec des très mauvaises nouvelles. Cette terre va nous avaler, il y a des géants, c'est une horreur, comment vivre là-bas? Et pourtant, c'est la terre promise. Nous sommes sortis d'Égypte, nous avons reçu la Torah, et la suite du processus direct, c'est eh bien pour la pratiquer dans cette terre où coule le lait et le miel que Dieu nous a promis. Et nous perdons donc l'accès en terre d'Israël en cette date-là. Et cet accès sera reporté de 40 ans, c'est-à-dire que c'est une autre génération qui rentrera en Israël. Et Rav Moshe Shapira explique que ici, ce n'est pas anodin le fait qu'il y ait une forme de division entre la génération sortant d'Égypte et celle entrant en Israël. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Alors certes, il y a une mémoire vive, puisque ce sont leurs parents qui leur ont raconté l'ouverture de la mer, les miracles, le Sinaï, la Torah, etc. Mais ce ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que ces deux événements sont déconnectés l'un de l'autre. Ils auraient dû être une unité, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, l'entrée en Israël, et il y a une déconnexion entre ces deux événements qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire, nous, juifs de diaspora, nous pouvons envisager un judaïsme de diaspora. Alors, vous me direz, ça fait 2000 ans qu'on s'y habitue, il fallait bien qu'on trouve des ressources et des moyens de s'y faire, certes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans l'absolu, hein, on pourrait aller en Israël aujourd'hui, et nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs dans le monde, hein, je parle des juifs du monde, à réfléchir à la Aliyah et à nous demander si c'est le bon moment, et si c'est pas dangereux, et si c'est pas différent, et si la Parnassa, et si cela. C'est-à-dire que dans nos esprits, et je m'introduis immédiatement, hein, dans la critique que je fais, bien sûr, dans nos esprits, il y a une sorte de division, de déconnexion entre le fait que nous pratiquions la Torah et le fait qu'on puisse être en dehors des Eretz Israël, comme si c'était une possibilité. C'est déjà une première raison, on va dire, de pleurer. Alors, ensuite, eh bien, il y a, bien sûr, à Tisha B'Av, les deux Khourban, les deux destructions. Destruction du premier temple, le temple du roi Salomon, le plus beau de tous, durant lequel il y avait la prophétie, durant lequel il y avait 10 miracles permanents. Et le premier temple donc, de Salomon est détruit 5 siècles à peu près avant notre ère, 70 ans d'exil en Babel, puis il sera reconstruit, il sera maintenu pendant 410 ans, et à nouveau, en plus 60-70, il sera à nouveau détruit à cette même date fatidique, le Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av. Le temple sera donc à nouveau détruit. Alors, et bien sûr, la raison de s'endeuiller, eh bien, c'est que nous avons aujourd'hui un Dieu silencieux. C'est ce que disent les grands sages quand ils voient Titus pénétrer le temple, briser le temple, pénétrer le Saint des Saints, planter de son épée l'immense rideau parochet qui qui se tenait juste devant le Saint des Saints. Et là, tout le monde se dit, mais Dieu va réagir, c'est pas possible, il peut pas laisser saccager son temple, enfin, c'est pas possible. Et un des sages dit, c'est la Gemara qui le rapporte, « Mi kamocha ba'il mi machem ». Alors, c'est un jeu de mots, parce qu'on connaît bien la phrase, le verset « Mi kamocha ba'ilim », qui est aussi puissant que toi, qui a une force aussi puissante que toi, qui a un Dieu aussi fort. C'est une question rhétorique, évidemment, pour exprimer la puissance et l'infini de Dieu. Et là, il y a un jeu de mots, mais tellement triste, avec un petit mème qui est rajouté, « Mi kamocha ba'ilim ». Il mime, ce qui ne veut plus dire parmi les forces puissantes, Elim, les forces puissantes de ce monde. Il mime, c'est les silencieux. Un ilem, c'est un muet. Qui est comme toi aussi silencieux, Dieu ? Dieu se tait. Dieu laisse faire la Shoah. Dieu laisse faire l'Inquisition. Dieu laisse faire les pogroms. Et ça, c'est évidemment, la plus importante raison de pleurer, je dirais la plus importante parce que nous, juifs, post-Shoah, on est juste une génération après la Shoah. Voilà, mon papa est né avant la guerre, donc je peux dire que nous sommes les enfants de la Shoah, nous autres, et nous sommes tellement marqués dans notre ADN par cette terrible Shoah, qui est le dernier événement le plus grave de notre peuple. Eh bien, oui. Qui est comme toi parmi les silencieux, Dieu ? Comment peux-tu laisser faire ? Eh bien, depuis la destruction du premier temple, la prophétie a cessé, c'est-à-dire que Dieu ne nous parle plus. Il entend nos prières, il nous protège, il nous fait retourner en Israël en 1948, il nous fait gagner toutes les guerres d'Israël, mais tout ça, c'est une présence silencieuse. Il se tait. Et c'est terrible parce que nous nous trouvons devant le Kotel et nous prions, et certains pour trouver leur âme sœur, et d'autres pour avoir un enfant, et d'autres pour avoir une guérison, et d'autres pour... Et ce sentiment si terrible, mais Dieu, mais réponds-moi, envoie-moi un signe, montre-moi que tu es là. Et c'est vraiment le cri du peuple d'Israël d'aujourd'hui. Passons à la... Donc c'était les trois premières raisons. Passons à la quatrième raison, au quatrième grand malheur d'Israël, le 9 Av. C'est le verset qui dit « Tzion sade techaresh ». Tzion, le mont du temple, Sion, va devenir tel un champ que l'on va labourer. Alors c'est un roi qui s'appelle Turnus Rufus, qui non seulement après la destruction du temple, tout était dévasté, mais lui, un jour de Tisha B'Av, il a eu la bonne idée, il a dit « Mais tiens, si on labourait le champ là, il pourrait peut-être produire quelque chose, il y aurait peut-être une fertilité. » Et il va labourer l'espace, la terre qui se trouve anciennement sur le mont du temple. Et qu'est-ce qu'il y a de si terrible ? On va dire « Bon, finalement, tout est détruit, alors bon, quelqu'un vient et le laboure. » Oui, c'est terrible, mais enfin, pourquoi les sages du Talmud viennent et disent « Quelle horreur ! Quelle horreur !» Alors en fait, ici, c'est une allusion au fait qu'on repart un cran en arrière. Parce que, souvenons-nous, Abraham est comparé à une montagne, Yitzhak est comparé à un champ, et Yaakov est comparé à une maison. Et à partir de Yaakov, la maison de Jacob, les 12 tribus de Jacob sont nées, et nous avons eu par la suite le mont du Temple, ce lieu, cette maison, ça s'appelle Beit HaMikdash, la maison du Mikdash. C'est-à-dire que c'est un lieu de connexion, c'est un lieu où se joignent le ciel et la terre, c'est un lieu de proximité. Et oui, parce qu'une maison, c'est le domaine privé, c'est mon endroit, je suis ici chez moi. La montagne, c'est vraiment le lieu de tous, on est dans un domaine complètement public. Le sadé, le champ, c'est un domaine, je dirais, semi-privé, il a un propriétaire, mais tous les champs ne sont pas clôturés, on peut des fois passer par un champ ou être dans un champ sans sentir qu'on est venu violer l'endroit d'une personne. Par contre, rentrer dans une maison, c'est rentrer chez une personne privée, dans son domaine, dans son jardin secret, pour ainsi dire. Et dire que l'on a labouré le lieu du temple, eh bien, c'est dire que finalement, l'endroit de l'intimité est devenu l'endroit de tous. Et ça, eh bien, c'est la raison de pleurer, parce que notre vie est étalée sur Insta, notre vie est étalée sur les réseaux sociaux, mais ce qui est plus grave, c'est pas qu'elle soit étalée. Ce qui est plus grave, c'est qu'on n'arrive plus à différencier ce qui est du domaine privé et ce qui est du domaine public. qu'est-ce qui est, s'appelle venir et faire intrusion à la vue publique et qu'est-ce qui ne s'appelle. On ne sait plus, en fait. On est perdu. C'est pas qu'on a envie, nous, de labourer ce champ, mais c'est qu'on n'arrive plus à distinguer les frontières, en fait, les frontières du public et du privé. Et enfin, la cinquième raison, eh bien, c'est la destruction de Bétard, la grande, grande ville de Bétard. Alors, après la destruction du temple, il y avait encore un foyer juif fabuleux à Bétard, avec un homme extraordinaire du nom de Bar Corva, qui dirigeait le peuple. Et Rabbi Akiva était vraiment, disait lui-même, c'est le Mashiach, ça y est, la Géoula va venir, on a subi une horrible défaite, les Romains sont venus, on nous a détruit le temple, ce temple a été labouré en champs, mais ça y est, Bar Corva est là. Et quand les Romains détruisent Bétard et Bar Corva et Rabbi Akiva, eh bien, à ce moment-là, même l'espoir de la rédemption est détruit. Et là, bah, c'est tous nos espoirs, vous savez, tous les faux messies qui se sont montés, tous les Sabbatai Tzvi, qui, en fait, en réalité, on s'est tous dit, mais ça y est, voilà, c'est pas possible que ça dure si longtemps l'exil, ça y est, c'est fini, il y a enfin une lueur d'espoir. Et ces espoirs se sont, ont fondu comme neige au soleil, les uns après les autres. Et on est encore tout le temps en train de dire « Bimhera biyamenu », bientôt de nos jours, que le Mashiach vienne, que Tishbi vienne, qu'enfin on puisse sortir de cet état dans lequel on s'est fait à la galoute, on s'est fait à la diaspora, on essaye d'être en bonne entente avec le pays qui nous accueille, mais nous ne sommes pas dans notre pays, nous n'avons pas le temple, nous avons un Dieu silencieux, nous ne savons plus qu'est-ce que le domaine privé et qu'est-ce que le domaine public. Et donc, à Tisha B'Av, nous pleurons.
Vous savez, Maria Schack, quand on m'a montré Facebook, je m'en souviens très bien, c'était en 2007, pas hier. Je me souviens très bien d'avoir dit, mais je ne vais pas mettre mes photos pour les montrer aux autres, pas faire ça. Et aujourd'hui, en 2022, je ne passe pas une journée, bon, c'est pour la radio, sans m'occuper des photos de Facebook. Je crois que c'est l'une des premières choses que je fais dans la matinée. S'occuper des photos de Facebook. Alors que la première fois, ça va intéresser qui ? Je ne vais pas mettre mes photos. Quoi. Regardez comment les choses, à quel rythme elles vont. Mariage, pardon ?
Les mentalités évoluent extrêmement vite et puis nos enfants n'imaginent pas un monde sans ça, sans Insta et sans tout montrer en fait.
Ah ouais. Je vais aller voir. Alors, autre anecdote qui n'a rien à voir. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez voir la Joconde, les gens ne regardent pas la Joconde. Vous êtes au courant de ça ? Les gens viennent du monde entier, ils viennent d'Australie, du Japon, de Nouvelle-Zélande pour voir la Joconde, mais ils ne la regardent pas. Ils la prennent en photo. Ou ils la filment.
C'est ça.
Incroyable. Maria Schack, merci. Merci pour ces très belles paroles. Je vous souhaite un bon Shabbat et un jeûne facile, si on peut parler ainsi. Un tzom kal. Bonsoir à vous. Shabbat Shalom.
Shabbat shalom, à bientôt.